Père Guillet, la vie de Jésus, pour l'observateur impartial, neutre, froid,
oui.
Idéal, est-ce que la vie de Jésus se termine avec sa mort aux portes de Jérusalem, mort ignominieuse, mort d'un bandit, d'un scélérat?
La vie de Jésus, la vie humaine de Jésus, bien sûr, la vie humaine de Jésus, comme la vie de tout homme, elle se termine à son dernier soupir. Ce que les évangiles rapportent, c'est que Jésus mort, il est revenu trouver ceux qu'il avait connus, ses disciples, et que ses disciples ont retrouvé cette certitude, mais c'est bien lui, donc il est vivant, donc, alors, on ne peut pas parler d'une autre vie, comme si Jésus avait recommencé une vie après sa mort, mais ce qu'on peut dire, c'est que la mort, sa mort n'a pas été le dernier événement, et que au-delà de sa mort, bon ben, il est vivant. Il a apparu, il est vivant.
C'est ce que croit...
C'est ce que croit l'Église, ce qu'on dit, je crois que ça a été la première expression de la foi chrétienne.
Alors je voudrais qu'on reprenne un peu quand même, parce que qu'est-ce que ça veut dire être ressuscité? Ce que ça veut dire donc... continuer sa vie, qu'il y a eu là un petit intermède malencontreux, une parenthèse, et qui s'est vite refermée, parce que ça a duré que 3 jours, n'est-ce pas? Et il y a des gens sur des lits d'hôpitaux.
Plutôt un jour. Bon, enfin, deux nuits que trois jours.
Bon. Donc une petite parenthèse assez brève. Ou bien il est réincarné, il se réincarne. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on dit ressusciter?
Bien, je crois que il faut bien nous rendre compte que même les textes et les affirmations les plus catégoriques sur la réalité de Jésus ressuscité, là-dessus, sont extrêmement discrets. Et ce qui est absolument certain, c'est que Jésus n'a pas recommencé une autre existence sur la terre. Bon, bien sûr, ça, il n'y a pas eu deux existences de Jésus sur la terre. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que de ce qu'est le Jésus d'après la mort, le Jésus qui reparaît, c'est que il ne se manifeste que par ce que nous appelons justement des apparitions extrêmement brèves, fugitives, et même dont les témoins ne peuvent pas donner de description précise. La chose certaine, c'est que c'est bien lui, c'est bien le même, c'est que il a, si on peut dire, avec eux les mêmes relations. Il est dans la même simplicité, la même familiarité, dans ces moments d'apparition, qu'il l'était avec eux avant. Et c'est ce que signifient tout de même ces notations qui étonnent, c'est que Jésus vient prendre un repas, il se met à table, il prend quelque chose avec eux et devant eux. Ça, c'est pas du tout parce que son existence maintenant va consister à manger et à boire dans des festins célestes, c'est parce que, au contraire, il manifeste que, étant visible, invisible, étant apparemment absent, il est en réalité tout proche. Et en particulier que sa mort n'a pas changé intérieurement ce qu'il était. Alors, ce qu'on peut aussi dire de cette existence nouvelle, c'est qu'elle est, elle est à la fois très proche de notre existence d'homme et de l'histoire et du destin des hommes, et en même temps qu'elle est tout de même invulnérable. Il a, comme le dit Saint Paul, il a vaincu la mort. La mort est le dernier le dernier ennemi que Jésus ait vaincu est la mort, et tout de même l'ennemi suprême de l'humanité, et Jésus a vaincu la mort. Il est au-delà de la mort.
Alors, si je vous comprends bien, Père Guillet, ce lecteur, ou enfin cet observateur que j'essayais de décrire un peu sarcastiquement tout à l'heure, n'est-ce pas, ne peut pas dire, bon voilà, n'est-ce pas, ça commence à un certain moment, disons autour de Jean-Baptiste, la vie de ce monsieur, et puis ça se termine comme un fiasco avec Ponce Pilate, et puis après, je ne veux plus rien savoir, n'est-ce pas. L'observateur est obligé de tenir compte dans sa relation avec Jésus d'un événement qu'on ne peut pas escamoter qui s'appelle la résurrection.
Ah ben, il est obligé d'en tenir compte parce que s'il n'en tient pas compte, il ne peut pas expliquer pourquoi des hommes, les disciples, qui eux-mêmes ont été, on peut dire, totalement entraînés dans l'échec et dans la défaite de la passion. Car les disciples, ils ont lâché. Pierre a renié, ils ont disparu. Ils ont eu l'impression à ce moment-là que c'était fini. Alors, comment expliquer que ces hommes qui ont eu l'impression que c'était fini, qui ne pouvaient pas, je dirais, oublier que eux-mêmes, à cette époque-là, ils avaient vraiment lâché. Ils n'avaient pas été à la hauteur. Ces hommes-là, comment se fait-il qu'ils aient retrouvé à la fois la conviction qu'ils étaient, ben, pour employer le mot chrétien, pardonnés, qu'ils étaient pardonnés, que leur lâcheté, leur échec, tout cela était maintenant pardonné, et qu'ils étaient en paix avec celui qu'ils avaient renié et lâché. Et comment t'expliquer qu'après ça, son pouvoir montrer au peuple juif, Jésus vivant, il soit allé dire au peuple juif, et d'abord aux responsables, les grands prêtres, et puis leurs conseillers, au Sanhédrin, au grand tribunal juif, ils sont allés annoncer à ces hommes-là que Jésus était ressuscité. Or, ils n'avaient aucune preuve à leur donner. Sinon, nous sommes là. Eh bien, nous sommes là parce que nous l'avons vu, et qu'il nous a pardonné, et que nous sommes là par sa force. Oui. Alors, sans la résurrection, vraiment, l'Église ne s'explique pas.
Alors, est-ce qu'à vos yeux, ça ne pourrait pas quand même être l'effet d'une illumination? Enfin, on l'a tellement aimé qu'on le fait vivre, qu'on le fait survivre en nous. Je pense, par exemple, à l'explication...
De Renan.
Oui.
Bien sûr. il s'agit de Marie-Madeleine, n'est-ce pas? Ben, mais bien sûr, il est tellement... tellement grand, tellement beau qu'il peut pas être mort. Mais, précisément, s'il n'y avait que Marie-Madeleine, c'est-à-dire s'il n'y avait que des disciples qui ont été fidèles jusqu'à la mort et à travers la mort, on pourrait se dire, bon, ben de fait, ces hommes, ces femmes qui ont été absolument fidèles, qui sont restés inébranlables dans leur attachement à Jésus, ben oui, c'est vrai qu'au fond, peut-être bien, que pour justifier leur attachement et leur certitude, il fallait affirmer qu'il était vivant. Mais précisément, ce n'est pas le cas des apôtres. Ce n'est pas le cas des 12. Les 12 n'ont pas été fidèles. Les 12 ont cru que c'était perdu. Et que tout était perdu. Alors, ils gardaient une certaine, bien sûr, ils ne pouvaient pas comme ça, du jour au lendemain, oublier ce qu'avait été Jésus. Mais enfin, ils ne pouvaient pas... Ils n'avaient certainement pas en eux d'abord la possibilité de croire et ensuite la possibilité et la force d'aller dire, vous savez, il est vivant. Je dirais même que les récits nous montrent bien que les disciples ont eu beaucoup de mal à réaliser que Jésus était ressuscité. Quand Jésus apparaît, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas, ça ne veut pas dire parce qu'il est déguisé, mais ils ne le reconnaissent pas parce que le personnage qui leur apparaît, c'est pas possible. Et justement, d'une certaine façon, ils ne l'avaient jamais vu dans l'état où ils le voient. Ils sont... pour nous, c'est le vrai Jésus, mais ils ne le connaissaient pas encore.
Mais justement, la résurrection va devenir, vous l'avez dit vous-même, ce qui est annoncé fondamentalement. On n'a pas d'autre chose à dire que
ça.
que cet homme-là
cet
a
homme-là,
vaincu,
il est vivant,
a vaincu,
il a vaincu
la mort.
La mort, oui.
Mais comment cela encore peut-il être crédible aujourd'hui? Je reprends, par exemple, une interprétation assez récente, celle de Poyer, par
oui,
exemple, n'est-ce pas, qui dit, oui, au fond, on se survit par ses œuvres, par ses bonnes actions, par la trace positive qu'on laisse dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que ce ne serait pas ça, simplement, la résurrection?
Ben, je crois vraiment que pour les chrétiens, ce n'est pas ça. Et, voyez, si on prend d'abord tout de même le... Enfin, direz-vous, je dirais que je reviens toujours aux disciples et à l'histoire des évangiles et que je laisse de côté le monde actuel. Je dirais, enfin justement, pour les disciples, ils avaient une idée de la résurrection. Et en ce sens-là, ils sont tout de même très différents du monde d'aujourd'hui. Les juifs du temps de Jésus, au moins une bonne partie, et les meilleurs, les plus dévots, les plus pieux.
Les pharisiens.
Oui, les pharisiens, et autour d'eux, enfin, tout ce qui subissait leur influence. Or, les pharisiens, tout de même, passaient dans le peuple pour les vrais, quoi, les purs. C'est pour ça qu'ils étaient respectés dans le peuple. Eh bien, pour les pharisiens et pour le peuple, la résurrection, c'était un événement collectif qui allait permettre à toutes les générations de se retrouver autour du Messie, précisément. Le Messie vient et il va rassembler tous les peuples. Alors, il y a ceux qui sont ses contemporains, et alors ce sont les disciples, ce sont ceux qui le connaissent. Mais pour que tout Israël soit rassemblé par le Messie, il faut précisément que tous les justes, depuis les origines, depuis Abraham, et Isaac, et Jacob, et Moïse, et tous les prophètes, il faut que tous ceux-là ressuscitent pour voir le triomphe du Messie. La résurrection, pour un juif, ça ne peut être que la résurrection collective de tous les justes qui viennent ainsi profiter du Messie. Alors, ce qui est tout de même surprenant et d'abord incroyable, c'est que la résurrection, ce soit simplement le fait d'un homme, d'un seul, et que cet homme ne soit même pas capable de se montrer, de rassembler un peuple. Il vient, il atteint quelques disciples et il disparaît.
Mais justement,
c'est invraisemblable.
Pourquoi restait-il pas? Pourquoi disparaissait-il toujours?
Ah ben, c'est justement que la résurrection est vraiment un mystère difficile à croire. Alors, c'est aujourd'hui incroyable. Vous savez, je dirais, c'est pas tellement étonnant. Ça a toujours été un mystère incroyable. La résurrection concrète, telle que Jésus l'a vécue et telle que les disciples l'ont vécue, c'est quelque chose d'incroyable. Alors que ce soit aujourd'hui très difficile à admettre, mais moi ça ne m'étonne pas. Ça étonnait déjà les juifs. C'est pourquoi du reste la majorité du peuple juif ne l'a pas cru.
Mais c'est à partir quand même de cette expérience de la résurrection que ces premiers disciples dont vous parlez vont repenser toute la vie de Jésus.
Certainement.
Donc ce que je trouve dans les évangiles, si je vous comprends bien, n'est pas nécessairement le récit journalistique de
c'est une interprétation. C'est une réinterprétation de choses, d'événements qu'en général, il n'avait pas compris du premier coup. Alors évidemment, il y a un regard jeté sur les événements de la vie terrestre de Jésus, qui est le regard de gens qui ont vécu la résurrection, enfin qui ont vécu le ressuscité, la rencontre avec le ressuscité, et certainement ça change leur regard et en même temps ça l'éclaire. Parce que l'existence de Jésus, elle posait tout de même toutes sortes de questions. Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait des miracles et puis il n'en profite pas? Et il propose des choses, mais enfin, invraisemblables. Il a des exigences impossibles. Il annonce les béatitudes. Mais les béatitudes, c'est pas vrai, quoi. Alors,
et puis de toute
tous
façon,
ces mystères, tout ce qui restait inexpliqué dans le message de Jésus, tout ça, la résurrection, c'est clair.
Et puis la façon dont il vit ne peut que le conduire à un échec aussi.
Et la façon dont il vit ne peut conduire
à un échec. C'est pourquoi peu à peu, on voit les gens le quitter.
On voit les gens le quitter. Donc, c'est la résurrection, alors qui à la fois, c'est vrai, transforme le regard qu'ils avaient sur les événements, mais qui d'une certaine façon leur donne le regard qui explique maintenant.
Mais alors, la question est la suivante, c'est que ce regard nouveau,
oui,
est-ce que c'est une trahison?
Eh bien, c'est pas comme ça du tout qu'ils l'ont vécu. Là, je crois justement que le témoignage des textes, c'est qu'ils ont eu au contraire la certitude que ce regard nouveau, il leur avait fallu du temps pour l'acquérir, et il avait fallu l'expérience du ressuscité, mais c'était véritablement le regard juste à poser sur Jésus, ce regard qu'ils n'avaient pas réussi à avoir pendant leur vie.
Et c'est à cause de cela qu'ils vont se mettre à
agir. Et c'est à cause de ça
au
qu'ils
nom
vont
de
se
Jésus.
Mettre à vivre, à parler, et à partir, et à annoncer le nom de Jésus. Mais oui.
Mais alors, comment est-il possible, justement, de se présenter devant des, je sais pas, à Rome, à Athènes, à Chypre, et puis, disons même aujourd'hui en Amérique, et dire « je parle au nom de Jésus ». Est-ce qu'il n'y a pas là quand même une substitution, et est-ce qu'il n'y a pas risque aussi de supercherie? Qu'est-ce qui vous
Bien
permet,
sûr.
Par exemple, je vais vous dire crûment, qu'est-ce qui vous permet à vous, comme prêtre, de dire « je parle au nom de Jésus » ?
Je dirais, c'est vrai qu'un illuminé peut le faire. Et je peux être un illuminé, c'est bien sûr. C'est ce qui, je crois, m'autorise à penser que je ne suis pas un illuminé. Bon, ben, je dirais, c'est l'expérience de la vie, c'est que je parle au nom de Jésus, mais j'ai tout de même vécu un certain nombre d'expériences, j'ai rencontré des gens, je pense que je peux vivre avec les hommes, au milieu des hommes, et me sentir à l'aise avec eux, et en même temps sentir que ce qui me fait vivre, ce qui me fait mener l'existence que j'ai choisi de vivre, c'est parce que je crois que je suis le témoin, mais et que de fait, je suis, si j'étais le seul, mais enfin, je suis tout de même le témoin au milieu d'un certain nombre d'hommes et de femmes où je me retrouve et chez lesquels je me retrouve. Et qui vivent, au fond, je crois, enfin, dont j'essaie de reproduire la vie.
Mais est-ce que précisément, enfin, reprenons la chose si vous voulez un peu à l'envers, parce que justement, n'est-ce pas, ces hommes, Pierre, Jacques, Jean,
oui,
se mettent à bâtir quelque chose au nom de Jésus, une vie sacramentelle d'abord, n'est-ce
oui
pas, communion,
oui,
messe, liturgie,
liturgie oui,
bon, pardon des péchés, etc. Puis tout à coup, on se trouve devant un appareil immense qui
bien
devient
sûr
un obstacle, finalement, à rejoindre Jésus.
Oh, bien sûr. Alors, vous savez, je crois qu'il y a déjà eu, entre l'existence que les 12 ont vécu derrière Jésus, les 12 et puis les disciples, ils n'étaient probablement pas uniquement 12, Jésus a mis un peu à part les 12, mais enfin, il y en avait quelques autres aussi. Et puis, déjà l'existence de la première communauté, ou des toutes premières communautés chrétiennes à Jérusalem, il y avait déjà un décalage. Hein. Derrière Jésus, ben, on est derrière Jésus, on le suit. C'est une existence d'une certaine façon itinérante, où, de fait, on peut dire, ils ont conscience qu'ils ont été arrachés à leur existence, à leur barque, à leur métier, à leur famille. Pourquoi ? Parce qu'ils suivent Jésus. Ensuite, les témoignages, les textes, en particulier des actes des apôtres, mais aussi de saint Paul, montrent que, après la résurrection de Jésus, les premiers chrétiens, ils n'ont pas continué l'existence telle que les avaient vécues les disciples de Jésus sur la route, reçus comme ça, recevant l'hospitalité de gens de bonne volonté. Il y a eu des communautés qui se sont installées, des maisons qui ont été, où on se rassemblait, offertes par un chrétien ou une chrétienne un peu plus à l'aise. Et ça a posé tout de suite des problèmes. Et que d'une certaine façon, et il aurait pu y avoir, et peut-être y a-t-il eu, chez tel ou tel, la nostalgie. Ah, avec Jésus, la vie était pas forcément plus facile, mais c'était même plus simple, et puis on était porté. Tandis que maintenant, il y a des problèmes, il y a des conflits, il y a les riches, il y a les pauvres, il y a toutes sortes de problèmes, du vivant même des apôtres. Après la résurrection de Jésus, il y a déjà eu beaucoup de problèmes. Alors, simplement du fait que, ben, c'est vrai que quand il y a quelques centaines ou quelques milliers d'hommes, eh ben, forcément, ils se réunissent et qu'il faut qu'ils s'organisent et que ça fait des problèmes. Et quand l'Église devient quelque chose d'immense et cherche à embrasser le monde entier, c'est évident que les problèmes, d'une certaine façon, grossissent avec ce développement de l'Église. Alors, et ça ne veut pas dire que ben, il faille laisser admettre n'importe quoi, mais je crois qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une distance et un décalage. Alors, je pense que c'est vrai aussi qu'il y a à travers l'histoire, il y a constamment une action que les chrétiens attribuent au Saint-Esprit et à la puissance de l'Évangile et de la parole de Dieu, une action qui fait que les saints remettent l'Église en face de sa... même de l'idéal à laquelle elle est appelée, mais c'est sûr qu'il y a une distance. Hein.
Mais je ne voudrais pas, si vous voulez, tomber dans un problème du type, n'est-ce pas, au nom de l'Évangile, au nom de la croix, on a anéanti des populations, etc. Je ne veux pas passer par ça. Mais je veux prendre deux types de problèmes. A-t-on besoin, comme le dit l'Église, par exemple, de la pratique sacramentelle pour rejoindre Jésus? Premier type de problème.
Oui.
Deuxième type de problème, est-ce qu'au fond, il ne serait pas mieux, grâce à des savants exégètes comme Jacques Guillet, n'est-ce pas, de prendre ses évangiles et puis de lire ses évangiles comme ça, d'avoir un contact direct avec Jésus? Est-ce que, en d'autres termes, j'ai besoin des autres pour atteindre Jésus? Voilà deux problèmes que j'aimerais vous donner une réponse.
Oui, bien sûr. Alors, le premier, c'est-à-dire...
toute cette pratique sacramentelle.
La pratique sacramentelle.
Tout cet appareil.
Appareil.
Que l'Église dit nécessaire pour atteindre Jésus. Est-ce que c'est vrai, ça?
Je crois qu'il faut vraiment nuancer fortement que l'homme, et disons en particulier le chrétien, le croyant, ait besoin pour accueillir et recevoir l'action de Jésus dans sa plénitude d'autre chose que de sa foi, d'autre chose que de sa relation à Jésus. Je crois qu'il y a là quelque chose qui, de fait, remonte aux origines même de l'Église et qui est fondamental. Dès les origines, l'Église a baptisé. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Église a baptisé? Ça veut dire que l'Église fait un geste qui est un geste de rassemblement, qui est un geste d'incorporation, d'adhésion. Mais en même temps, l'Église doit signifier que le moteur de cette adhésion, la force du rassemblement, c'est pas elle qui en est la source, qu'elle n'en est que l'instrument. Et ça, c'est en son fond le sacrement. Moi, Église, je donne le baptême. J'administre le rite du baptême. Pourquoi? Parce que je ne peux pas simplement dire « Venez, je vais vous donner une carte d'identité chrétienne. » Je dois en même temps signifier que vous venez, vous croyez, vous écoutez ce que je vous dis et vous y adhérez par une force qui n'est pas la mienne. Et cette force, c'est la force du Christ et de l'Esprit. Et c'est ça ce que signifie le sacrement. Alors le sacrement, c'est pas une pratique que l'Église impose pour obtenir telle ou telle ou telle grâce. Le sacrement, c'est le geste que l'Église doit poser pour affirmer et pour signifier que ce n'est pas elle qui convertit, ce n'est pas elle qui sanctifie, ce n'est pas elle qui dit la vérité, c'est le Christ. Alors, ce qui est tout à fait vrai, et c'est très malheureux, et c'est une pente fatale, et c'est pourquoi il faut que l'Église s'en défende, et elle ne s'en est certainement pas défendue suffisamment, c'est de confondre le sacrement et la pratique. C'est-à-dire, de dire que, du moment que le sacrement est cette chose excellente, et nécessaire, et indispensable, alors plus on en fait, mieux ça vaut. Non. Alors, dans ce cas-là, le sacrement, le rite se dégrade en pratique. Ça, c'est une dégradation du sacrement. Mmh. Mais ce n'est pas le sacrement. La force du sacrement, justement, c'est... il faut la maintenir, et de fait, il est tout à fait vrai que le danger de la pratique, c'est de la réduire à une routine. C'est absolument vrai.
Mais il reste que le sacrement est nécessaire.
Ah ben, le sacrement est nécessaire.
Et alors, mon autre question, est-ce que j'ai besoin des eaux pour atteindre Jésus, est-ce que j'ai besoin de l'Église, ou si je ne pourrais pas le faire, il ne faudrait pas mieux le faire moi-même dans l'intimité de la réflexion, de la conscience et de...
Ah ben, je dirais, il y a deux... Enfin, il me semble que je donnerais deux raisons pour lesquelles j'ai besoin de l'Église. Jésus, ce n'est tout de même pas... Et Dieu, parce qu'enfin Jésus, c'est tout de même l'expression de Dieu, la manifestation et la révélation de Dieu. Dieu, ce n'est pas simplement celui... Je dirais qui m'attend en tête à tête. Bien sûr, Dieu est ma... Je n'atteins vraiment Dieu que dans la relation personnelle. Moi, toi et moi, ça, c'est bien sûr. Mais en même temps, Jésus ne serait pas Dieu s'il n'était pas celui qui rassemble, ou qui vise à rassembler l'humanité tout entière. Alors, en ce sens-là, je ne peux pas me dire je dois atteindre Dieu et Dieu, je ne l'atteins que tout seul. Il y a certainement, dans la vie religieuse et dans la vie de foi, il y a certainement un aspect personnel, de rencontre personnelle, sans lequel je passe à côté de Dieu. Mais Dieu, c'est aussi tout de même le Père de tous les hommes et je ne peux pas me passer de cette relation à tous mes frères quand j'atteins Dieu et quand je cherche Dieu. Et puis, je dirais que Dieu tel qu'il s'est révélé, c'est-à-dire à travers ce personnage d'homme, le Christ, il y a, dans la révélation du Christ, il y a quelque chose que je ne peux pas me donner. Vous disiez, mais si à travers des exégètes, je pouvais atteindre le Christ. Non, à travers les exégètes, vous pouvez atteindre l'image, peut-être, que cet exégète se fait du Christ, mais pour que ce soit véritablement le Christ, il ne faut pas simplement, justement, que ce soit un exégète, que ce soit un être singulier, il faut que ce soit... La foi d'une communauté. Un exégète, quelle que soit sa valeur et sa piété, un exégète ne peut pas vous faire atteindre le personnage de Jésus et par conséquent ne peut pas vous faire atteindre Dieu.
C'est vrai pour vous?
Ah, c'est vrai pour moi, oui. Tout à fait. Je me sens...
C'est-à-dire que votre travail ne vous suffit pas?
Mon travail, je dirais, mon travail, je pense que mon travail réussit dans la mesure où, à travers mon travail, je rejoins et je comprends mieux la foi de l'Église, la foi des saints, la foi des chrétiens que je rencontre.
Et qui ne sont pas des hommes aussi instruits.
C'est pas une question d'instruction. Alors, bien sûr, il y a. Je crois, de fait, c'est vrai que, comme il y a dans l'Église et dans l'Évangile, il y a une part de. de communication à travers des textes, à travers une histoire, à travers une tradition, ben, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait, des spécialistes de l'histoire, de la tradition, de l'exégèse. Je crois que ça fait partie des nécessités de l'Église. Mais si ce travail-là ne rejoint pas la foi, je dirais la foi immédiate des chrétiens, il est inutile. Il ne sert à rien.
Père Guillet, je vous remercie.